Bonjour, 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 galériens, galériennes. Eh bien, nous sommes le mercredi 21 janvier 2026. Il fait beau, super. C'est la saison du mimosa. Je vous signale qu'il commence à y en avoir partout dans les jardins. Et là, en passant au marché aux fleurs sur la plaine, c'était éclatant de bouquets de mimosa et de gerbes de mimosa. Ça fait quand même plaisir, c'est super. Surtout qu'il y a quand même encore quelques poinsettias. Donc vous savez, ça fait vert, jaune-orangé, rouge. Enfin, un peu les drapeaux, la rasta, africain, caribéen, tout ça. Je trouve que ça met en forme le matin. Donc, vive le mimosa, ouais, c'est pas très révolutionnaire, mais après tout, pourquoi pas. En dehors de cela, eh bien, c'est toujours la période, à partir d'aujourd'hui pile, les soirs de la lecture, non, les jours de la lecture. Aidez-moi les copains, copines, s'il vous plaît, comment ça s'appelle? Les nuits de la lecture, ça y est, j'y suis. Donc, les nuits de la lecture commencent aujourd'hui jusqu'à samedi ou dimanche dans toutes les médiathèques de la ville, comme sans doute dans toutes les médiathèques de France. Et alors, renseignez-vous, allez voir le site des médiathèques de Marseille, bien sûr. Toujours théâtre et cinéma. Alors, au cinéma, il continue à passer à l'Alhambra et à la Baleine. Le Rendez-vous des quais de Paul Carpita, c'est génial, fabuleux, totalement marseillais, du temps où à Marseille on se battait, oui, pour les travailleurs et pour l'exercice de la démocratie au travail.
Et contre la guerre.
Et en effet, antimilitariste et pacifiste. Donc, allez voir les Rendez-vous des quais à l'Alhambra ou à la Baleine, ça fait du bien aussi. Et puis au théâtre, ah ben oui, j'en ai pas parlé beaucoup la semaine dernière, donc c'est un peu tard parce que c'est fini. Mais à la Joliette, il passait un spectacle qui s'appelle Rumba. Et pour compenser, enfin ça compense pas grand chose, mais c'est pas grave. Pour compenser entre guillemets, vous aurez tout à l'heure en pause musicale la musique qui est aussi une des musiques du spectacle Rumba. Donc, pour cette fois-ci, je disais, c'est trop tard parce que ça ne passe plus à la Joliette. Mais si vous avez l'occasion de le voir ailleurs, il s'agit des spectacles de Ascanio Celestini, qui est donc un auteur italien, interprété par David Murgia, qui est un Belge d'origine italienne. Et qui font tous les deux des tas de spectacles, là encore, sur la vie des gens, les luttes, les combats, des propos qu'on aimerait entendre davantage. Et donc, si vous voyez passer dans votre horizon culturel les spectacles d'Ascanio Celestini et de David Murgia, eh bien, ne les manquez pas. Et donc ce Rumba qui est passé la semaine dernière à la Joliette, eh bien on en passera la musique, une des musiques de scène tout à l'heure comme intermède musical. Alors voilà, ça c'était le tour d'horizon culturel. Quant à savoir ce qu'on lit aujourd'hui, eh ben j'espère que ça va vous faire rire, va vous rendre peut-être pas compte là à l'autre bout dans vos radios, mais la semaine dernière on avait un grand journal qui était pas facile à plier, à déplier, à replier, etc. Aujourd'hui on a un tout petit livre qui est en format de, je dirais, à peu près la moitié d'un livre de poche. Eh ben c'est pas plus facile parce que on a beaucoup de mal à ouvrir les pages et on a beaucoup de mal à lire convenablement justement ce qui est caché dans le creux des pages. Donc un peu comme d'habitude, il y aura de temps en temps des blancs parce que on aura du mal à se passer le petit livre pour le lire. Donc Françoise et moi à la technique, peut-être Souane, peut-être Arina, peut-être les deux. Elles sont en train de discuter là de l'autre côté de la vitre. Et donc, elles vont nous faire une super technique, mais c'est un peu sans filet. Donc là encore, si de temps en temps, ça brouillonne un peu, ben ne nous en voulez pas. Voilà, c'est comme ça. On fait avec parce que c'est toujours difficile. On est bénévole ou on est en remplacement ou on est comme Swan en service civique ou on est comme Arina au début de l'intervention salariée à Radio Galère. Donc on remercie tout le monde, mais de temps en temps évidemment ça commence à patiner un peu dans les coins, mais non, ça ne patinera pas. Voilà, alors nous commençons ce petit livre, tout petit livre dont je vous parlais, qui s'appelle « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, virgule, en finir avec une sentence de mort. » Ah ben, il y a même Jules qui vient donner un coup de main là derrière la vitre, super. Donc, petit livre de Pierre Thévanian, qui est un polémiste et essayiste français, et de Jean-Charles Stevens, qui est un essayiste et polémiste belge. Alors, dans les petits chapitres, après, quand il parle de ce qui ne va pas dans notre monde, justement, il donne des exemples sur la France et la Belgique, ou bien au détour d'une phrase, ils nous disent « en France ou en Belgique ». Donc, vous saurez pourquoi on a « en France et en Belgique », c'est parce qu'il y a un Français et un Belge qui sont auteurs, et donc ils s'adressent tous les deux et à la fois au public français et au public belge. Donc, évidemment, cette phrase... qu'on va commencer par expliquer. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Les auteurs nous disent qu'il faut en finir avec, entre guillemets, cette sentence de mort. Et c'est ce à quoi ils s'emploient dans les, je ne sais plus, 70 pages à peu près de demi-format que fait leur petit livre. Une sentence de mort. Proférée pour clore toute discussion, c'est 10 mots. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, semble constituer l'horizon indépassable de tout débat sur les migrations. En France comme en Belgique, et sans doute ailleurs, il tombe comme un couperet pour justifier toujours le contrôle et la maîtrise des flux migratoires, c'est-à-dire en termes moins euphémiques, le refus, la restriction, la fin de non-recevoir et la répression. En ce sens, il constitue bien ce qu'on appelle une sentence, dans les deux sens du mot, une simple phrase tout d'abord, exprimant une pensée de manière concise et dogmatique, sans développement argumentatif, mais aussi un verdict, une condamnation, prononcée par une autorité à l'encontre d'un ou d'une accusée. La juridiction ici, c'est l'État, ou tout bon citoyen qui s'en veut le garant ou le fondé de pouvoir. L'accusé est, bien entendu, le ou la réfugiée, le ou la migrante. Quant à la peine prononcée, c'est d'abord, purement et simplement, même si on feint de l'ignorer, une peine de mort. En premier lieu, pour les 30 000 morts comptabilisées en Méditerranée depuis 2014, et les plus de 1000 morts au nord et à l'est de l'Europe dans la même période. Ce que le réseau Migre-Europe a nommé la stratégie du laisser-mourir et du laisser-mourir en mer, c'est aussi, sous différentes formes, la mort sociale et la vie mutilée qui attendent en Europe les survivants et survivantes devenus sans papier dans leur campement, puis au-delà. Harcèlement et violences policières, destruction des biens personnels, interdiction de distribuer de la nourriture ou de la recevoir, bataille juridique pour accéder à l'eau potable, dédale administratif, discrimination multiforme. Nous soutenons, pour notre part, que cette phrase est profondément xénophobe et, à ce titre, moralement et politiquement problématique. Nous soutenons également qu'elle repose sur de nombreux sophismes que nous entendons déconstruire ici. L'enjeu d'une telle déconstruction est ni plus ni moins que la levée d'un tabou, un interdit de parler et même de penser et de sentir. C'est en effet l'émotion, autant et en même temps que la pensée, qui est empêchée, étouffée, verrouillée par ces 10 mots prononcés toujours sur le mode de l'évidence et de la mise en garde. Toute objection est importune. La sentence joue en somme le rôle d'esquive, ou pour reprendre les mots de Gilles Deleuze, de schème sensorimoteur, dont la fonction est de neutraliser en chacun et chacune d'entre nous toute affection, toute perception et toute idée de l'intolérable. Les auteurs nous expliquent ici donc ce qu'est le schème sensorimoteur, excusez-moi, expliqué par Gilles Deleuze, c'est-à-dire qu'on est atteint, on est touché par un certain nombre de choses, mais en fait, il y a des courts-circuits, pourrait-on dire, qui, dans un certain nombre de cas, empêchent que le fait d'être atteint ou touché fonctionne vraiment. Et donc, d'après toujours nos auteurs, cette phrase fonctionne exactement comme ça, c'est-à-dire comme un blocage de nos chaînes sensorimoteurs. À partir du moment où on nous dit « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » de façon péremptoire et définitive, eh bien finalement, pour la majorité des auditeurs ou des lecteurs de cette sentence, cela bloque toute réflexion ultérieure. Les auteurs poursuivent « Notre travail vise en somme à défaire ces esquives qui nous déconnectent de nos propres affects et de notre propre capacité de penser. Il ne s'agit pas d'opposer simplement l'authenticité de l'empathie et de l'indignation à la cruauté d'une froide raison calculatrice, ce qui reviendrait à reconduire en miroir inversé l'opposition manichéenne qui est construite par la pensée d'État entre une raison monopolisée par les gestionnaires et les élans du cœur irréfléchis, aveugles et irresponsables. Ce que nous combattons n'est pas une raison pure, mais une rationalité particulière, mêlée et éventuellement asservie à un ensemble d'affects, à commencer par la soif de pouvoir et la peur de l'étranger. Ce que nous y opposons, en positif, c'est tout simplement une autre rationalité, nourrie de travaux scientifiques, soucieuse de véracité quant aux fruits invoqués, et de cohérence logique dans les conclusions que nous en tirons. C'est une rationalité qui n'est pas au point, elle aussi, guidée par les affects. La différence et le différent résident simplement dans la nature des affects investis. S'il faut nommer ces ressorts intimes et affectifs qui guident notre entreprise, motivent notre réflexion et nous imposent la rigueur dans le raisonnement, disons qu'il s'agit d'une sympathie pour des frères et sœurs humains, d'une colère contre une oppression et aussi d'un certain besoin d'estime de soi, lui-même corrélé à une certaine idée de la citoyenneté, de l'hospitalité, de la solidarité, de l'égalité et de la justice. Donc ici, le projet est bien posé, déconstruire cette sentence « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et pour cela, dès lors, dans la petite brochure ou le petit livre que nous avons face à nous, dès lors, donc, nous allons avoir au fil des pages une explication à la fois grammaticale et sémantique de la phrase en question sur la base des mots ou des expressions qui la constituent. On aura donc un petit chapitre sur « on », un petit chapitre sur « ne peut pas », un petit chapitre sur « accueillir », un petit chapitre sur « toute la misère », non pardon, sur « toute », et encore un petit chapitre sur « la misère du monde ». Vous voyez, pour le vieux prof de français que je suis, ce genre d'explication de texte hyper détaillé là, sur les mots et les expressions, c'est un vrai régal. Donc ce vrai régal, bah, écoutez, j'espère que vous le partagerez. Donc on commence à lire. On se passera le livre de temps en temps et vous nous excuserez pour les petits blancs. Donc Françoise va démarrer et ensuite elle me repassera le petit livre.
Le tout premier mot pose déjà problème.
Premier mot, on.
Qui est-ce on, faussement indéfini ? Ou se noue dans certaines variantes de la même phrase. C'est bien évidemment la personne qui prononce ou écrit la phrase. Mais le « on » va justement plus loin qu'un « je ». Il renvoie bien à un « nous », une ou plusieurs personnes, sans qu'il soit possible de savoir qui exactement. Nous voici donc face à une première entourloupe, très classique en politique. Plutôt que de dire « je » et d'assumer seul avec l'unique force des arguments rationnels, un choix politique éminemment critiquable, celui en l'occurrence de la fermeture des frontières, du maintien de la forteresse Europe et de la chasse aux sans-papiers, ruineuse économiquement et criminelle moralement, le « nous » permet d'une part de diluer la responsabilité, d'autre part de faire masse, d'intimider l'interlocuteur, l'interlocutrice et enfin de l'amadouer. Le « nous » désigne en effet grammaticalement un ensemble formé par un « vous » et un « moi ». Le sujet qui prononce le « nous » embarque donc son destinataire avec lui, immédiatement et directement. Il s'adresse à des personnes avec lesquelles il s'identifie et crée de ce fait une communauté de manière immédiate, implicite, performative et, il faut bien l'avouer, expéditive. Ce « nous » gouvernemental est en fait abusif à deux égards. Il est abusivement inclusif en ce sens qu'il postule un consensus, une communauté de situations, d'intérêts et donc de destin qui n'existent pas, en enrôlant de force toute la nation entière derrière un choix politique qui est tout ce qu'il y a de plus singulier et litigieux et qui est le fait de d'une toute petite caste, comme le font également les fameux « nous traversons une période difficile » et « nous allons devoir faire des sacrifices » énoncés par des dirigeants qui ne souffrent en rien des crises économiques et moins encore des politiques d'austérité qu'ils imposent en réponse aux dites crises. Ce « nous » est aussi abusivement exclusif dans la mesure où la communauté qu'il postule, aussi vaste soit-elle, est malgré tout définie par un contour qui indique un dehors, une altérité exclue du « nous ». « Nous » signifie en effet « je et tu » ou « je et vous », en tout cas « moi et des autres », mais pas, ou très rarement, « moi et tous les autres ». Le « nous » se distingue du « je », mais il s'oppose aussi presque toujours à un « eux ». Le contenu de ce « eux » peut être plus ou moins explicite ou implicite, mais le « nous » construit toujours un dispositif à trois termes. « Moi », les autres que j'associe à « moi » et qui sont donc sous des modalités variables pour une raison ou pour une autre les miens, et enfin « les autres », « autres », les autres qui ne sont pas les miens, que je n'inclus donc pas dans le « nous », mais plutôt dans un « eux ». Tout cela est en fait de bonne guerre politique, chaque camp créant son « nous » en opposition à un « eux » à combattre.
Merci. Oui, enfin, voilà, nous en sommes là, dans les pensées nationalistes et racistes. Nous, les Français, ou nous, les Belges, contre eux, les étrangers. Nous, les bons Français, ou les bons Belges, contre eux, les mauvais. Nous, les autochtones, contre eux, les allochtones. Nous, les Français de souche, contre eux, les Français de papier. Or, à l'évidence, le « nous » de « nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde » renvoie à une collectivité qui est nationale. Il désigne l'ensemble des nationaux, les Français et Françaises, les Belges, ou tout autre citoyen d'un pays d'immigration prononçant la fameuse phrase, et le « eux » auquel il renvoie, qui désigne donc les personnes étrangères. Ce « nous » national est en somme, qu'on l'assume ou non, une expression de la préférence nationale, chère à tous les xénophobes, dans la mesure où il exprime une vision du monde social très particulière, avec un parti pris très particulier dans la désignation de l'ennemi et de l'ami ou de l'allié. Plutôt que l'union de « nous les opprimés », toutes nationalités confondues, contre « eux les oppresseurs », toutes nationalités confondues, plutôt que « nous les antiracistes » contre « eux les racistes », c'est une union sacrée de tous les nationaux, riches et pauvres, dominants et dominés, démocrates et antidémocrates, qui est invoquée contre une masse d'étrangers. On a donc vu le « on » ou « nous ». Eh bien, les auteurs passent maintenant à « ne peut pas ».
Le verbe « pouvoir » renvoie à deux notions. La possibilité et l'autorisation. Ne pas pouvoir, c'est faire face à une impossibilité ou à un interdit. Ce qui renvoie à un choix restreint, voire forcé, l'interdit renvoyant à une sanction en cas de mauvais choix. Ou à une absence de choix, une option impossible ne pouvant par définition pas être choisie ou du moins pas réalisée jusqu'à son terme. Il y a là, bien évidemment, un nouveau coup de force rhétorique, là encore dans le sens d'une déresponsabilisation. La responsabilité de la fermeture des frontières, du quasi-démantèlement de l'asile et des milliers de morts que ces politiques engendrent n'est pas seulement diluée dans un « nous » indéfini. Elle est purement et simplement niée dans la mesure où le choix politique n'est pas assumé comme tel, mais présenté au contraire comme la simple reconnaissance et le simple accompagnement d'une stricte impossibilité. Nul n'étant tenu à l'impossible, il apparaît dès lors illégitime de demander le moindre compte et la moindre remise en question. La dite impossibilité est présentée comme un état de fait, une donnée incontestable face à laquelle il n'y a rien qui puisse s'opposer et sur laquelle il n'y a pas de maîtrise possible. Il n'y a plus une question politique sur laquelle plusieurs réponses peuvent être apportées et sur laquelle un débat citoyen peut avoir lieu. Il s'agit plutôt de clore toute discussion en prétendant affirmer une vérité incontestée et incontestable. Nous ne pouvons pas. Vient en somme en lieu et place de « je ne veux pas » et permet de sauver les apparences de la volonté bonne, de l'intention pure.
Oui, vous savez, c'est ce que, quand on expliquait au lycée les auteurs de l'époque des Lumières, on disait qu'il s'agissait d'arguments d'autorité. Ben, c'est exactement ça. Cet artifice rhétorique consistant à simuler l'impuissance, l'incapacité, on aimerait bien, mais on ne peut pas, c'est d'autant plus odieux qu'il est utilisé par des dirigeants qui sont en général arrivés au pouvoir en faisant campagne sur le refus de l'immobilisme et du fatalisme et en nous expliquant qu'avec de la volonté politique, tout est possible. Pour revenir à la question de l'asile et de l'immigration, il est tout simplement faux de dire qu'on ne peut pas changer de politique, qu'il est impossible d'ouvrir les frontières, de repenser et refonder le droit d'asile, et que la seule option possible est de pourchasser, traquer, enfermer, expulser, terroriser une partie de la population, dont le sort est de venir d'ailleurs, dont le tort, pardon, est de venir d'ailleurs. Il est à l'évidence possible d'accueillir la misère du monde, si l'on tient à cette expression problématique. De nombreux pays le font, plus ou moins bien, mais dans des proportions nettement supérieures à celles que pratiquent la France, la Belgique ou d'autres pays riches. Les auteurs nous expliquent ici que, en fait, les premiers pays d'accueil des réfugiés, ce sont d'abord le pays lui-même, entre régions, comme on l'a vu par exemple en Ukraine, et puis les pays voisins. Par exemple, des pays pauvres du Moyen-Orient, de l'Afrique ou en effet de l'Est de l'Europe. En fait, les auteurs continuent pour expliciter ce manque de volonté d'accueil justement dans les pays finalement les plus riches. Notons donc que la récente guerre d'Ukraine et l'exode qu'elle a occasionné ont apporté à leur manière une réfutation supplémentaire de la proverbiale impossibilité de l'accueil. Comme l'a très bien résumé le réseau Migre-Europe, aujourd'hui, l'Europe, c'est-à-dire l'UE, fait pour les exilés ukrainiens et ukrainiennes ce qu'elle a longtemps prétendu impossible pour les autres. Permettre la mobilité des personnes en quête de refuge et la reconnaissance de leurs droits, plutôt que de chercher de les bloquer à tout prix. Cette brèche ouverte avec la mobilisation exceptionnelle dont font preuve aujourd'hui les États membres démontre que, contrairement à ce qu'elle a toujours dit, l'Europe a la capacité d'accueillir un très grand nombre d'exilés. Le réseau Migre-Europe réclame que cet élan de solidarité et d'accueil soit étendu à toutes les personnes, quelle que soit l'origine, la nationalité, la couleur de la peau, la classe, etc. De cette extension à toutes les personnes et du refus opiniâtre dont elles font en fait l'objet, nous allons bien sûr continuer à parler. Chapitre suivant, accueillir. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Venons-en donc maintenant à ce verbe accueillir.
Employé jusqu'ici par commodité, mais lui-même piégé, dans la mesure où il peut renvoyer à des réalités tout à fait diverses et permet donc à nos orateurs quelques glissades rhétoriques tout à fait spécieuses. En effet, ce verbe est utilisé couramment dans les institutions internationales pour désigner la simple présence d'immigrants sur le territoire sur un territoire donné. Accueillir est alors à entendre au sens de compter sur son territoire. Il possède aussi le sens plus actif en désignant une politique publique consistant à accorder à ces immigrants un statut et des droits afférents. Il est enfin utilisé dans la langue courante avec une charge affective plus forte et une connotation plus positive pour exprimer une conception bien plus exigeante et engageante de l'hospitalité. Recevoir comme il faut, souhaiter la bienvenue, prendre soin, voire héberger chez soi. En choisissant de tels mots, accueillir, héberger, on laisse la métaphore domestique s'inviter dans les esprits, en écho au « nous » très impliquant qui ouvre la phrase « nous accueillons des étrangers chez nous », avec tous les glissements politiques funestes que cela peut entraîner. « On est chez nous », cri de ralliement de toutes les meutes fascistes.
Cri de ralliement de toutes les meutes fascistes, disent les auteurs, « on est chez nous ». Autrement dit, là encore, le « nous » par rapport aux autres. Plus largement, si le pays est conçu comme une maison, les nationaux deviennent, en filant la métaphore, les uniques propriétaires ou locataires légitimes. Et les résidents étrangers, fussent-ils installés et titulaires d'un bail ou d'un titre de propriété, se retrouvent en fait relégués au rang d'invités, tenus de respecter la très dissymétrique loi de l'hospitalité. Ils sont donc soustraits au régime de l'égalité devant la loi commune. C'est cette inégalité donc de traitement que on ne perçoit pas dans le mot accueillir, mais qui est en fait sous-jacent. Pour le dire autrement, contrairement à ce que peut laisser entendre ce verbe équivoque, ce qui est en jeu avant tout dans le débat public sur l'asile et l'immigration, et qui est refusé quand on prononce cette fameuse phrase sur la misère du monde, n'est pas la prise en charge personnel et à domicile de chaque misérable qui arrive en France ou en Belgique, mais le fait de laisser tranquille des gens qui arrivent dans nos pays, de ne pas les traquer comme des bandits, de ne pas les enfermer et de ne pas les en expulser. De les laisser donc déjà s'aider eux-mêmes. C'est aussi, bien sûr, ce minimum d'aide qu'est un statut, un titre de séjour, des droits sociaux, à égalité avec n'importe quel citoyen ou citoyenne du pays donné, de manière à pouvoir vivre, travailler, se nourrir, se loger, se soigner. Et si d'autres aides au logement notamment sont assurément exigibles, c'est ni plus ni moins que pour n'importe quel habitant ou habitante dans le besoin, ce que les finances de la sixième puissance économique mondiale, la France, répétons-le, peuvent tout à fait assurer si la volonté politique est là. Il n'est donc pas faux, en ce sens strictement juridique, qu'on ne peut pas accueillir la dite misère du monde. Une législation xénophobe l'interdit. C'est la législation qui l'interdit, et cette législation est xénophobe. Une autre conclusion peut être tirée de cette prohibition et de cet acharnement à pourchasser et punir l'hospitalité. C'est l'existence même de cette législation scélérate et de son application zélée qui vient précisément prouver, qu'il est tout à fait possible d'accueillir la misère du monde. Si ce n'était pas possible, on n'aurait pas besoin de voter des lois et d'envoyer la police pour nous en empêcher. Ne doutez pas à nous, peuple de France et de Belgique, ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Contentez-nous d'assumer vos incapacités. Dites que vous ne voulez pas accueillir, c'est-à-dire que vous ne voulez pas donner la liberté de circulation, l'égalité des droits et la fraternité humaine aux étrangers. Mais si vous ne voulez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Alors, avant de poursuivre, on va justement écouter la musique dont je vous parlais tout à l'heure, la musique d'une chanson qu'on appelle habituellement « Ay Carmela », qui a été, c'est une chanson historique, qui a été chantée par les Espagnols contre les armées napoléoniennes. Ça s'appelait « El Paso del Ebro ». Et ça poussait donc les Espagnols à résister à l'invasion napoléonienne au moment du passage de l'Ebre, donc à défendre l'Ebre. Et c'est redevenu une chanson de résistance, une chanson de résistance des républicains espagnols contre les fascistes, évidemment à partir de 1936, à partir de la prise de pouvoir antidémocratique de Franco en Espagne. Alors donc, El Paso del Ebro est devenu Ay Carmela, que nous allons écouter maintenant.
Brigada
rumba 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 rumba,
que te ha cubierto de gloria,
ay Carmela, ay Carmela,
que se ha cubierto de gloria,
ay Carmela, ay Carmela.
Luchamos contra los moros,
rumba 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 rumba,
luchamos contra los moros,
rumba 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 rumba.
Legionario y fascista,
ay Carmela, ay Carmela.
Legionario y fascista,
ay Carmela, ay Carmela.
Frentes de Gambesa,
rumba 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 rumba,
en los frentes de Gambesa,
rumba 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 rumba,
no tenemos municiones ni tanques ni cañones, ay Carmela, no tenemos municiones ni tanques ni cañones, ay Carmela.
Sobra corazones, ay Carmela, ay Carmela. Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
Solo es nuestro deseo,
rumba, 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 rumba.
Solo es nuestro deseo,
rumba, 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 rumba. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Ay Carmela, ay Carmela.
Ay Carmela.
Rumba, 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 rumba.
Rumba. Et oui, c'est pas par hasard hein, que Ascanio Celestini avait choisi cette musique pour terminer en particulier son spectacle Rumba, parce que cette musique, c'est quand même un peu la musique de toutes les luttes contre tous les fascismes. Et quand les républicains espagnols, dans les paroles, nous disent « nous n'avons pas de canon, nous n'avons pas d'avion, mais nous nous battons sous les bombes », eh bien, nous n'avons pas de canon, nous n'avons pas d'avion, mais nous nous battons sous les bombes. C'est hélas ce qui est arrivé aussi dans d'autres pays. Hein. On parlait la semaine dernière du Chili ou du Venezuela. Ben oui, quand on vous balance des bombes sur la tête, c'est un peu difficile, mais on peut résister quand même. Donc résistons, résistons contre tous les fascismes avec Ascanio Celestini et avec tous les, comment on dit, les acteurs culturels qui pensent encore à lutter. Et donc, comme acteur culturel qui lutte, aujourd'hui, on a Pierre Thévenian et Jean-Charles Stevens qui ont écrit ce petit fascicule « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde pour en finir avec une sentence de mort ». Autrement dit, pour déconstruire cette phrase On a vu avant la pause musicale l'analyse textuelle de « on », de « on ne peut pas », de « on ne peut pas accueillir », et là maintenant on en est à « toute ». On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
L'usage du mot « toute » renvoie à une totalité et pas à n'importe laquelle, le monde, excusez du peu. La ficelle rhétorique est grosse là encore. Il s'agit une fois de plus d'intimider, d'impressionner, de terrifier, d'attiser les phobies en produisant un sentiment de submersion, d'invasion, de grand remplacement, au prix bien entendu d'un brouillage des enjeux et d'une caricature du point de vue adverse. Puisqu'il est évident, dès qu'on prend le temps d'y réfléchir, que la question est proprement absurde et hors de propos, personne n'ayant jamais demandé ni à la France ni à la Belgique d'accorder asile et titre de séjour à la totalité des 281 millions de migrants de la planète. Pas même, pour commencer, les dites migrantes. Il est bon, en effet, de le rappeler, vivre en France ou en Belgique n'est pas le rêve absolu de toutes les personnes déplacées. Ce qui est demandé à des pays riches comme la France, la Belgique et l'ensemble des pays européens est simplement d'assurer un droit reconnu par des traités internationaux, le droit d'asile, et plus largement le droit de quitter son pays et donc d'élire domicile et refaire sa vie dans un autre. Ce qui est demandé est que l'Europe accueille décemment des réfugiés qui représentent autour de 1,25% de sa population. 6,5 millions de réfugiés pour 513 millions d'habitants en 2019. Ce qui est demandé est que ces pays riches fassent sensiblement plus que ce qu'ils font jusqu'à présent. Entre 43 000 et 60 000 titres de séjour délivrés chaque année en Belgique, respectivement en 2013 et 2019, et entre 199 000 et 285 000 en France, respectivement en 2012 et 2019. Soit entre 0,4% et 0,52% de la population totale pour la Belgique et entre 0,3% et 0,4% pour la France. Notons qu'en 2018, avec un taux de 0,52% pour la Belgique et de 0,4% pour la France, ces deux pays se trouvaient nettement en dessous de la moyenne européenne, 0,63%, et respectivement au 21e et 27e rang sur 32 pays européens.
Ah oui, donc vous voyez, on fait peu. Alors là, on pourrait reprendre le « on ». Le « on », aussi bien belge que français, on fait peu pour les migrants, c'est-à-dire que finalement, on en accueille très peu. Alors effectivement, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et non seulement on ne l'accueille pas, mais on est loin, 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 loin d'en accueillir même une petite part. Puisque, paraît-il quand même, quand Michel Rocard a dit « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », il aurait dit, dans un deuxième temps, « mais on peut en prendre une partie ». Alors, malheureusement, on n'a pas la confirmation de la deuxième partie de la phrase. Donc, il est certain que le morceau de phrase ou la totalité de la phrase qui a été prononcée et qu'on retient maintenant, c'est en effet « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et c'est donc cette phrase-là que nos auteurs sont en train de déconstruire. Et oui, on poursuit. Ce qui est certain, c'est qu'un mensonge répété prend souvent des allures de vérité. Et qu'un leitmotiv comme « toute la misère du monde » finit par produire des représentations, des fantasmes et des phobies. Une enquête réalisée en 2015 dans 33 pays européens a notamment montré que la proportion de migrants vivant sur les territoires nationaux concernés était systématiquement surévaluée par les sondés. Donc, dans tous les pays interrogés, qui étaient des pays qu'on pourrait dire riches, soit en Europe, soit dans d'autres pays développés, par exemple en Amérique latine, eh bien, dans tous ces pays, et aux États-Unis aussi, les personnes à qui on demande quelle est la proportion de migrants sur leur sol surévaluent totalement, avec une surévaluation qui va de 25 à 120%, le nombre, justement, de ces étrangers sur le sol. Alors, tenez-vous bien, en France, la surévaluation de la présence des migrants, elle est de 116%. Autrement dit, si on demande aux gens quelle est la proportion d'étrangers dans la population, eh bien, ils surévaluent du double cette proportion existante. C'est donc l'image même, de la phobie et de ce que les auteurs ont appelé, en effet, la xénophobie. Ce qui manifeste une frontière entre les exilés arrivant chez nous, entre guillemets, et nous-mêmes, la population en place. Et puis, cette évaluation, elle se différencie aussi, on l'a vu tout à l'heure, suivant les populations. La xénophobie décomplexée, pudiquement rebaptisée inquiétude ou insécurité culturelle, elle est différente suivant les populations dont on parle. Lorsqu'on parle en particulier de cette totalité indésirable ou sous forme euphémisée inassumable ou ingérable, ça pose un autre problème, ce problème de fermer la porte à ladite totalité. On l'ouvre toutefois, éventuellement en grand, en revanche, à l'une des dérives éthiques et politiques importantes, c'est celle de l'immigration choisie. Autrement dit, si on trie, si on sélectionne, si on impose des quotas, on va trouver des étrangers qui seraient, eux, assimilables. Et donc, cette différenciation, bien sûr, développe complètement le règne de l'arbitraire et des critères tout à fait douteux, comme la qualité, le niveau intellectuel ou de profit qu'on peut tirer de l'arrivée de certains migrants. Ça repose éventuellement sur la loi de proximité, le voisinage, la ressemblance, l'affinité culturelle. Tout cela, évidemment, c'est une approche totalement culturaliste, identitaire et raciste. Mais pour le dire plus crûment, le « pas toutes » se décline soit en « pas la piétaille », soit en « pas la racaille », soit les deux. Ce qui est manifeste dans la frontière entre les bons et les mauvais exilés, qui sépare non seulement les réfugiés d'Ukraine des migrants afghans, mais aussi au sein même de la vague ukrainienne, les vrais Ukrainiens, c'est-à-dire les nationaux, des faux, c'est-à-dire des résidents étrangers installés en Ukraine et subissant de la même façon les problèmes de la guerre. S'ils sont un peu trop africains ou un peu trop orientaux. Cette discrimination, donc, eh bien, elle repose sur de savantes classifications qui ne font que reformuler sous une forme sublimée une bonne grosse discrimination raciale bien sordide. Le refus de tout, il est d'ailleurs aussi comptable. Et ce refus comptable de toute la misère du monde, c'est évidemment ce qu'on va déconstruire dans l'expression « la misère du monde ».
Le mot « misère » est un substantif abstrait qui désigne un état, une condition dans laquelle se trouvent une ou plusieurs personnes marquées par la privation, la précarité et ou le malheur. Il n'est donc nullement fait mention de personnes, d'individus ou de groupes. Notre phrase ne parle pas de femmes, d'hommes et d'enfants qui seraient dans la misère, ni même de miséreux ou de misérables, mais simplement de la misère. Une misère sans nom, sans sexe, sans visage. Une misère tellement essentielle, fondamentale, indécrottable, qu'elle prend toute la place jusqu'à effacer l'humanité de celles et ceux qui la supportent et qui semblent, dans cette phrase, la transporter sur leur dos, en tout lieu, du lieu d'origine au lieu d'installation et en tout temps, du passé qui a causé l'émigration au présent de l'immigration jusqu'au futur qui est pourtant dans l'esprit de toutes ces arrivants et arrivantes un futur meilleur.
C'est drôle parce que pendant que Françoise lisait là, l'image de gens qui promèneraient leur misère sur leur dos, ça me rappelait comme quoi le racisme n'est pas récent, ça me rappelait ces vieilles images antisémites du juif errant. Vous savez, à la Renaissance ou même à l'âge des Lumières, on voyait ces représentations du juif avec bien sûr le nez et les doigts crochus, qui se promenait dans l'Europe entière avec justement un sac sur le dos. Alors la misère du monde, ben oui, c'est celle que promènent sur leur dos tous ceux dont on ne veut pas finalement. Tous ceux dont on disait quand j'étais petite que, par exemple, comme les petits Chinois, ils allaient venir manger dans notre assiette. Parce qu'il y a bien longtemps, les Chinois, non, ils ne fabriquaient pas encore des objets du fast fashion ou de la qualité moindre. Les Chinois, ils mouraient de faim. Donc les petits Chinois, on avait peur d'eux, on avait peur qu'ils viennent manger dans nos assiettes. Et les pauvres, entre guillemets, du monde entier, on a peur qu'ils promènent avec eux la misère du monde et qu'ils la ramènent sur leur dos jusqu'à chez nous. Continuons.
Cette appellation exerce donc une extrême violence, en premier lieu à l'égard des arrivants, dont l'humanité est niée, ou en tout cas silenciée et invisibilisée, et dont la route est barrée d'une implacable assignation au malheur et à la pauvreté. Ce malheur dont ils et elles veulent s'extraire leur est renvoyé comme une seconde nature, un destin, une identité, un sobriquet. Misère tu fuis, misère tu es, misère tu resteras. La grande majorité des études scientifiques, des plus anciennes aux plus récentes, concernant l'impact de l'immigration sur l'activité et la croissance économique, sur l'emploi et les salaires des autochtones, sur l'équilibre des finances publiques, bref, sur la vie économique au sens large, ont montré que l'immigration est davantage une aubaine qu'une charge et qu'on pourrait donc aussi bien parler de la jeunesse du monde ou de la puissance du monde que de sa misère. Pour commencer, l'ensemble des études chiffrées depuis des décennies a établi que ce n'est justement pas la misère qui émigre. Au niveau mondial, les pays les plus pauvres constituent une faible part de l'émigration et la proportion des migrants ou des migrantes est beaucoup plus forte dans les pays à PIB intermédiaire. Au sein même de ces pays, ce ne sont pas non plus les franges de la population les plus misérables qui émigrent, mais plutôt les couches moyennes. Les migrants se situent rarement au plus bas de l'échelle sociale dans leur pays d'origine. Ils et elles sont même souvent au-dessus de la moyenne, tant en termes de capital économique qu'en termes de capital culturel. Ces personnes constituent en somme, par rapport aux autres habitants de la société d'origine, une population sélectionnée, plus jeune, en meilleure santé, plus diplômée, plus entreprenante, dotée d'un minimum de ressources, ne serait-ce que pour payer le voyage et les frais d'installation.
Oui, ça c'est très intéressant. Ça a bien sûr été étudié par des chercheurs. On nous dit ici, la grande majorité des études scientifiques, oui c'est clair, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent, et surtout, une fois arrivés justement dans leur pays d'accueil ou de non-accueil, eh bien en fait, ils représentent un capital important et ils rapportent plus qu'ils ne coûtent. Il est bon de rappeler que dans cette misère des États, nos propres États ne sont pas pour rien. Ils ont contribué pour une bonne part à la déstabilisation et à la destruction des 10 États, en produisant et en vendant en masse les armes qui alimentent les guerres les plus meurtrières. Pensons notamment que la France est le 3e plus gros exportateur d'armes au monde. Mais en même temps, et les pays riches ont maintenu les pays du Sud sous la pression de la dette et ils ont imposé, par l'intermédiaire du Club de Paris, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, des plans d'ajustement structurel éminemment destructeurs. Sans aller bien loin, d'ailleurs, vous vous souvenez que la Grèce a refusé, et ça a créé beaucoup de problèmes économiques et sociaux, les plans de... Comment on dit? Les plans de, d'économie? Il y a un terme un peu plus méchant que ça. Enfin bon, bref, les plans de sacrifice économique que l'Europe voulait imposer. Et en tout cas, ces études sur les populations migrantes, c'est ce qu'a affirmé la dernière étude de l'OCDE. Dans tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays d'accueil, entre guillemets, consacrent à la protection sociale, à la santé et à l'éducation. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ces aspects, Mais les gens qui arrivent sont souvent des gens jeunes. Et quelquefois, ils repartent dans leur pays. Donc, par exemple, ils ne coûtent jamais rien en retraite, vous voyez. Continuons. Les études menées depuis plusieurs décennies sur la relation entre immigration, taux d'emploi et niveau des salaires montrent que l'immigration ne provoque pas de chômage chez les nationaux et qu'elle tend plutôt à élever le salaire des dits nationaux qu'à faire pression à la baisse. Car les immigrés entrent dans une relation de complémentarité plutôt que de substituabilité avec les autochtones. Les métiers pourvus par les arrivants et arrivantes sont souvent des métiers moins convoités par les Français ou Françaises ou par les autres nationaux. Ainsi, les actifs immigrés ex-communautaires s'orientent 3 fois plus que les autres actifs vers l'hôtellerie-restauration, l'intérim, la sécurité et le nettoyage. C'est pourquoi, si concurrence il y a, celle-ci s'exerce davantage entre anciennes et nouvelles vagues de migrants ou migrantes qu'avec les natifs nationaux. Alors vous voyez, la misère du monde, bah, il faudrait en effet la redéfinir un peu mieux. Et puis il faudrait surtout prendre en compte justement l'apport économique des migrants. La réduction des arrivants au statut de main-d'œuvre foncièrement et éternellement miséreuse, docile, taillable et corvéable à merci, est à vrai dire d'autant plus malvenue que ce sont les politiques d'immigration menées qui génèrent la misère, en renvoyant des arrivants ou arrivantes éventuellement pourvus de ressources et de projets à l'irrégularité et donc à la clandestinité, à l'invisibilité et à la précarité. Notre fameuse sentence apparaît en somme, une fois de plus, comme un énoncé performatif produisant des réalités, les réalités dont il parle, mais dont simplement il prétend prendre acte ou tenir compte, alors que ces réalités n'en sont pas. Non seulement l'impossibilité de l'accueil, mais aussi cette misère elle-même sont des abus de langage. Il faut se rendre à l'évidence. Ce « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » permet de justifier, et donc de faciliter, la mise en place de politiques d'immigration restrictives, en particulier dans l'attribution et le renouvellement des permis de séjour, dont l'effet premier est une radicale précarisation des arrivants et arrivantes. En d'autres termes, une production de misère qui est en fait non pas une donnée objective et naturelle immuable, mais un résultat des politiques appliquées. Je suis perdue dans mes petites pages. Où en suis-je ? Oui, pour la suite, on tire une conclusion partielle. Rappelons qu'un véritable débat sur le coût économique des migrations se doit de prendre également en compte le coût des politiques d'immigration répressive. Dans le cas français, par exemple, le sociologue Damien Leblic a chiffré dans ses études à plus de 700 millions d'euros annuels le coût des politiques d'expulsion et de reconduite aux frontières. Sans parler, je le disais l'autre jour, du coût de paiement de tous les gens qui travaillent pour l'OFPRA, la CNDA, etc. Si tous ces gens étaient transformés en précisément agents d'accueil, entre guillemets, ou de formation des populations arrivantes, ça serait une sacrée économie. Une dernière question s'impose enfin, la plus impérieuse, celle du coût de ce débat lui-même. Sur un plan plus fondamental, c'est-à-dire philosophique, éthique et politique. Car au-delà de la misère qu'ils ou elles cherchent à fuir, ou de la puissance qu'ils ou elles injectent dans la vie économique, ces migrants et ces migrantes pris pour objet de débat sont en fait une infinité d'autres choses. Ils sont avant tout des sujets sociaux à part entière, dotés d'une culture, au sens le plus large du terme, d'une personnalité, d'une créativité, tout cela irréductible à toute appellation expéditive et englobante. Et s'il n'est pas inutile de rappeler tout le potentiel économique et au-delà toute l'énergie et l'agentivité de ces arrivants et arrivantes, afin de souligner le caractère infondé, fantasmatique et dangereux de l'expression « la misère du monde », eh bien donc, il est quand même nécessaire de dénoncer l'égoïsme sordide, le cynisme même, de tous les questionnements focalisés sur les coûts et les avantages. Car une société ne se fonde pas seulement sur des intérêts à défendre, mais aussi sur des principes à honorer. Et il en va de même, du reste, de toute subjectivité individuelle. Le réalisme, si souvent invoqué par nos gouvernants, exige qu'on prenne en compte aussi cette réalité-là. Nous ne vivons pas seulement de pain, d'eau et de profits matériels, mais aussi de valeurs que nous sommes fiers d'incarner et qui nous permettent de nous regarder dans une glace. Personne ne peut ignorer durablement les exigences morales sans finir par payer, sous une forme ou sous une autre, une inexpugnable honte. S'il est précisément honteux, inacceptable moralement aux yeux de tous, ou du moins de beaucoup, de refuser des soins aux enfants, aux vieillards, aux malades ou aux handicapés, en invoquant leur manque de productivité ou de rentabilité, il est évidemment tout aussi inacceptable de le faire quand les 10 enfants, vieillards, malades ou handicapés viennent d'ailleurs. Sauf à sombrer dans la plus simple, brutale et abjecte xénophobie. Alors, c'est une conclusion partielle de nos auteurs, Pierre Thévanian et Jean-Charles Stevens, qui nous expliquent dans le dernier petit chapitre que, en effet, on peut dénoncer la xénophobie et au contraire construire un plaidoyer pour l'hospitalité. Juste une minute, donc, avant d'en venir à nouveau à notre générique de fin. La phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est bien xénophobe. Par xénophobie, il faut entendre la combinaison de deux éléments que sont la peur et l'étranger, la peur de l'étranger, reliés par un lien causal. C'est l'autre en tant qu'autre qui est l'objet de la peur. La xénophobie en tant que peur est donc une émotion ressentie face à un danger perçu comme imminent. Il s'agit d'une sensation qui a pour effet d'inhiber la pensée et d'induire des réponses immédiates, soit de l'ordre de combat, soit de l'ordre de la fuite. Plus précisément, le mot « phobie » renvoie à des peurs irrationnelles, infondées, portant sur un danger en fait minime ou inexistant, comme par exemple l'agoraphobie, la peur de l'espace ou de la foule. La phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est bel et bien xénophobe, puisque, on l'a vu, elle oppose un « nous » national à un « eux » qui désigne d'une manière grossière les personnes étrangères. Et elle est aussi xénophobe parce que l'hyperbole « toute la misère du monde » suggère une espèce d'entité gigantesque et potentiellement menaçante, envahissante, engloutissante, que toute personne sensée, bien sûr, pourrait éviter, mais n'a pas besoin d'éviter puisqu'elle n'existe pas. Par sa formulation, notre petite phrase fait apparaître la présence d'étrangers sur le sol national comme un accueil de toute la misère du monde, comme quelque chose de toxique et, bien sûr, préfigurant ce danger du grand remplacement. Alors, les différentes manifestations de la xénophobie, souvent résumées par l'existence d'une pyramide de la peur et de la discrimination, eh bien, gardons-nous-en comme nous nous gardons de tous les fascismes. Et pour cela, revenons à notre chanson de Myriam Makeba, qui est aussi notre générique, et qui nous invite à vivre avec les autres. À la semaine prochaine!
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika. nacido.